Bonjour, Raymond Richard au micro, vous êtes sur Radio Grand Ciel et nous nous retrouvons dans l'émission Histoire d'en savoir plus et en savoir plus sur les chrétiens d'Orient avec le père Christophe Beignet qui a fait une conférence à Dreux et qui a bien voulu venir à Radio Grand Ciel pour nous parler de cette question passionnante à de nombreux égards sur ces témoins des racines de la foi chrétienne. Merci. Alors, en deux mots, avant de dire qui sont les chrétiens d'Orient, vous avez été assez longtemps en Terre Sainte et vous êtes passionné pour cette question. Alors, une minute pour rappeler ça à nos auditeurs et puis après on voit qui sont ces chrétiens d'Orient.
Alors oui, j'ai passé 2 ans en Terre Sainte en tant que coopérant pour la délégation catholique pour la coopération. Et rien qu'en Terre Sainte, eh bien, il y a 13 confessions chrétiennes, c'est-à-dire 13 communautés chrétiennes différentes. Et je me suis rendu compte finalement de cette diversité que pouvaient représenter les chrétiens en Orient. Il y a cette première diversité qui m'avait impressionné.
Donc quelque chose qui vous a amené à essayer d'en savoir plus. Alors nous aussi, on veut en savoir plus.
Mais du coup, en me penchant un peu sur cette question, je me suis rendu compte que dès les origines de l'Église, après la Pentecôte que l'on vient de fêter, en fait, les apôtres ne restent pas ensemble tous les 12, ils vont chacun témoigner dans une partie du monde connu à l'époque, c'est-à-dire le monde méditerranéen. Et finalement, va se développer différentes traditions. Pour prendre un exemple, eh bien, Pierre va à Antioche, et à Antioche, bah, c'est la première fois ce qu'on appelle les fidèles du Christ, les chrétiens. On dit que saint Thomas est parti plutôt vers la région,
vers l'Est et vers la Perse,
et selon la tradition, il est même allé jusqu'en Inde. Eh bien, ce témoignage a donné une tradition syrienne et assyrienne qui a donné une tradition particulière. Il y a le témoignage de l'évangéliste saint Marc qui est plutôt parti dans la région d'Alexandrie, donc en Égypte, et ça a donné la communauté des Coptes. Et puis, on ne peut pas citer les Orientaux sans évoquer bien sûr Constantinople, qui en fait est la capitale de l'Empire après la chute de l'Empire romain. Et ce qui est assez, finalement assez intéressant, c'est qu'au départ, on a une unité de foi, et ça a donné notamment le symbole de Nicée-Constantinople, qui tire son nom des deux premiers conciles, le concile de Nicée en 325 et le concile de Constantinople en 381, mais une diversité de rites, c'est-à-dire de manières de prier. Et en fait, cette diversité de rites, elle se regroupe autour de 5 grandes villes qui deviendront, on va dire, les sièges des patriarcats, c'est-à-dire, eh bien, des. Un patriarcat, c'est un ensemble de diocèses avec à sa tête un patriarche. Donc, pour les Occidentaux, pour nous, c'est le patriarcat de Rome, et le Saint-Père avait dans sa longue titulature le nom de patriarche d'Occident, le patriarche de Rome. Il y a le patriarcat de Constantinople, qui sera le patriarcat notamment de ceux qui ont le rite grec. Souvent, lorsque l'on parle des orthodoxes, on a derrière la tête les Grecs orthodoxes qui célèbrent la liturgie byzantine. Ensuite, il y a le patriarcat d'Antioche, qui n'a pas de rite propre, mais qui a deux rites, on va dire, le rite assyrien, le rite que l'on appelle aussi chaldéen, et le rite syrien. Ensuite, il y a le patriarcat de Jérusalem, qui n'a jamais eu de rite particulier, et puis le patriarcat d'Alexandrie, qui on va dire le patriarcat des Coptes, et puis de cette tradition de la liturgie copte dont héritent les Éthiopiens et les Érythréens. Et c'est finalement assez intéressant de voir que, dès le début de l'Église, jusqu'au 5e siècle, il y a cette unité de foi, mais cette différence de culture, parce que le christianisme s'est développé dans une culture chaldéenne, grecque, latine, copte, et finalement ça a donné une diversité. Parfois on a l'image d'une uniformité de l'Église au départ, et bien il faudrait tempérer cela par cette diversité de traditions et de rites.
Donc, une très grande diversité de rites, et puis, en fait, finalement, il s'agissait de s'adapter à la culture du pays.
Tout à fait, s'adapter à la culture du pays, et sachant que Antioche, à l'époque, au 5e siècle, c'est vraiment la capitale culturelle du monde. C'est aussi l'époque du développement patristique, Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Jean Chrysostome, qui vont donner leur nom, justement,
orientaux, oui.
Voilà, qui vont donner leur nom aux différentes liturgies, Saint Cyril d'Alexandrie. C'est vraiment une époque d'effervescence théologique et spirituelle.
Eh bien, vous nous avez parlé donc de cette diversité. On va faire une petite pause et puis après nous allons reprendre parce que cette diversité, on n'en est pas resté là.
Absolument.
Nous sommes toujours dans l'émission Histoire d'en savoir plus sur les chrétiens orientaux avec le père Christophe Beignet. Et vous nous avez évoqué justement ces patriarcats, les cinq patriarcats, Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem, Alexandrie. Et puis la diversité des rites. Un écho de cette diversité des rites et de quelque chose qui vous a frappé particulièrement ?
Ben c'est vrai qu'on peut être assez déconcerté lorsqu'on se retrouve dans la liturgie des Grecs, que l'on appelle... non pas la messe, mais la divine liturgie, parce qu'on y perd, nous, latins, nos repères. Par rapport à eux, c'est vrai que la liturgie latine a une certaine sobriété, alors que pour les Grecs, pour les Byzantins, eh bien, la liturgie, c'est quelque chose de céleste, et donc ça doit se voir, et donc il y a de l'encens, il y a la musique, il y a des grelots, et puis il y a surtout du chant. Pour célébrer la divine liturgie chez les Grecs, il faut un prêtre et... un chantre, c'est-à-dire quelqu'un qui va répondre au prêtre par le chant. Et ça, c'est assez beau aussi de voir qu'ils vont mettre en valeur cette partie du chant que nous maintenons aussi dans notre tradition, mais d'une manière assez particulière. Et puis la divine liturgie, eh bien, elle est assez longue. C'est des offices en Orient qui sont assez longs, assez répétitifs, mais avec une très grande foi en la Trinité, eh bien, avec l'invocation qui se répète souvent, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, qui est l'invocation au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui est très présent dans la divine liturgie. On peut aussi voir qu'il n'y a pas de banc dans les églises orientales, il y a des espèces de stalles sur les côtés pour ceux qui chantent, et puis après, chacun trouve sa place un peu par-ci, par-là. Je dirais que la liturgie est... Enfin, quand on assiste à la divine liturgie, il y a un côté... un peu informel, qui n'est pas non plus un brouhaha, mais qui est aussi l'expression d'une sensibilité orientale particulière où finalement, bah, lorsqu'on veut prier, eh bien, on fait son signe de croix, on va vénérer une icône, on va
allumer des bougies,
on va chanter, on va s'incliner, on va faire ce qu'on appelle une métanie, c'est-à-dire s'incliner profondément. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir comment cette tradition s'est développée. Même si, avec un regard un peu acéré, on peut voir beaucoup de points communs, notamment sur la liturgie de la... Enfin, on a à peu près la même structure, c'est-à-dire la liturgie de la parole, le récit de l'institution. Je parle de la divine liturgie, hein, d'un exemple particulier. On a la même structure et on peut s'y retrouver si on sort un peu de notre tête du livre et qu'on regarde ce qui se passe. Eh bien, on peut y reconnaître des gestes que l'on fait aussi également dans le rite latin, dans le rite romain. Voilà.
Alors, là, on a évoqué donc ces rites différents, mais qui en même temps, avec des similitudes, en fait, c'est quand même le même Jésus-Christ, hein, quand même, mais aussi des divisions sont survenues. Alors, expliquez-nous un peu ces divisions et pourquoi.
Ben, je vous le disais tout à l'heure, cette unité de foi, elle a pris différentes formes, des différences de tradition, et avec l'histoire, avec les enjeux des alliances politiques, et aussi avec les hommes, cette diversité, elle est devenue différence, et différence dans le domaine de la foi. Parce que quand on a voulu définir finalement en qui on croyait, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, par exemple, Marie, mère de Dieu, eh bien, on s'est rendu compte de cette difficulté de traduire les définitions de la foi d'une langue à l'autre, du grec au copte, par exemple, du grec au syriaque.
Puis on n'imaginait peut-être pas aussi que Marie puisse être la mère de Dieu. Une femme mère de Dieu, c'est pas possible.
Alors, je sais pas si... Vous savez que Marie, mère de Dieu, ça a été acclamé par le peuple. Au concile d'Éphèse, c'est le peuple
qui a amené...
qui dehors a proclamé...
On m'a toujours parlé du sens,
Marie,
sens
mère
des
de
fidèles.
Voilà. Sensus Fidei, c'est exactement ça. Marie, mère de Dieu, acclamée par le peuple. Donc, je crois qu'au contraire... et puis, les orientaux ont une très grande dévotion à la bienheureuse mère de Dieu.
Et pourquoi c'est mal passé auprès d'autres?
C'est mal passé auprès d'autres, je pense, pour différents facteurs. Il y a bien sûr la barrière de la langue, qui n'est pas un détail, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Il y a aussi, vous savez, si on est dans le... je vous le disais, il y avait cette rivalité, par exemple, entre Antioche, capitale culturelle, et Constantinople, capitale politique. Et ça a certainement joué dans cette séparation. On note finalement trois grandes dates qui ont consommé les séparations dans l'Église. C'est celle du concile d'Éphèse. Vous savez, le concile, c'est cette réunion d'évêques pour définir la foi. Donc c'était sur la concile d'Éphèse, donc sur la Vierge Marie. Le concile de Chalcédoine en 400...
La nature du Christ, non ?
Alors, c'est plutôt Chalcédoine, vrai Dieu et vrai homme. Et Éphèse, ça parle du Christ aussi, mais aussi de la Vierge Marie. Donc, à Éphèse, par exemple, on a toute la partie assyrienne, chaldéenne, qui se détache, qui ne comprend pas ce que veut faire Constantinople et Rome, et du coup se détache et donne, on va dire, la branche chaldéenne de l'Église, trois grandes églises orientales, les Assyriens, les Syro-Malabar, les Syro-Malankar, qui viendront se greffer par la suite. Ensuite, en 451, sur la double nature du Christ, nous croyons, c'est dans le credo, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et finalement, cette partie-là, syrienne, non pas assyrienne, n'était pas d'accord de parler de double nature pour le Christ. Pour elle considérait que la nature divine du Christ absorbait sa nature humaine. Et finalement, il y a plusieurs églises qui se détachent, on va dire, du point de vue de la foi, notamment les Coptes d'Égypte, les Syriaques, les Arméniens et les Éthiopiens. Donc ça, c'est en 451 au concile de Chalcédoine. Et puis, bien plus tard, il y a le grand schisme, ce qu'on a appelé le grand schisme d'Orient, en 1054, où cette fois, ce sont les Grecs qui ne sont plus d'accord avec les Latins, c'est-à-dire avec Rome, notamment autour de la question du filioque, de la procession de l'Esprit-Saint. Pour les Grecs, l'Esprit-Saint procède du Père uniquement, nous disons du Père et du Fils. Et voilà, on a eu du mal à s'entendre. Il y a aussi un enjeu, je pense que
il y avait des enjeux politiques. Et
des enjeux politiques, et puis le sac de Constantinople survenu en 1204, je crois, a consommé un peu cette différence.
Cet antagonisme, oui.
Et en fait, on se retrouve à aborder le deuxième millénaire, où finalement l'Église du Christ, qu'il a voulu une, est divisée en Orient.
Et puis après, il y a eu peut-être aussi des compétitions entre les orthodoxes et les latins pour, agrandir l'influence. Et ce sont qui irait évangéliser la Russie. Enfin, je pense qu'il y a eu aussi toutes ces... Enfin, ça s'est multiplié ensuite.
Alors après, c'est sûr qu'il y a
une rivalité un peu.
Il y a un développement de l'Église grecque jusque dans l'Europe de l'Est, puisqu'on a aussi des Grecs orthodoxes en Europe de l'Est. Alors en Russie, c'est plus connu, mais c'est vrai qu'ils ont le même rite. Et c'est vrai qu'il y a cette Constantinople, et c'était une ville extrêmement, extrêmement importante, et il y a toujours eu cette rivalité politique entre Constantinople et Rome, qui s'est retrouvée, parce que l'Église est faite d'hommes aussi, dans cette rivalité, non pas des Églises, mais des personnes qui avaient l'autorité dans l'Église. Et c'est vrai que ça a été... l'histoire de l'Église, c'est aussi... malheureusement une histoire de division qui en font partie.
Oui, ça, parce que les hommes ne sont pas de purs esprits, et voilà, la politique joue aussi son rôle, et le pouvoir donc,
et le pouvoir, les influences qui se jouent l'empereur de Constantinople avait une certaine influence sur les conciles et sur le fonctionnement de l'Église également. Donc c'est vrai que ça, tout cela a favorisé, on va dire, les divisions.
Donc il y a eu cette période de division, on a vu l'unité de la foi, puis comment les choses se tordent un peu. Et aujourd'hui, on n'en est plus là, mais avant, on va faire une pause. Et puis on va retrouver justement cette unité de la foi qui se reconstitue ensuite. Bien, nous sommes toujours dans l'émission Histoire d'en savoir plus sur les chrétiens d'Orient. On vient de voir comment les divisions se sont multipliées. Mais au-delà de ces divisions, finalement, le Saint-Esprit travaille et puis l'unité a été retrouvée. Alors comment on est passé de ce tableau d'affrontement, de rivalité, à un retour vers l'unité, et notamment l'unité de la foi?
Alors en fait...
Parce que sur le plan politique, ce n'était pas tout à fait pareil.
Au XVIe siècle... on assiste à l'Église à un certain paradoxe, parce que c'est à la fois le schisme à l'intérieur de l'Église occidentale, de l'Église latine, avec les protestants, en 1517, et paradoxalement, quelques années plus tard, on assiste à un retour de certains orientaux, c'est-à-dire de rites grecs, arméniens, syriaques, etc., en communion avec le Saint-Père, avec l'évêque de Rome, c'est-à-dire avec le pape. Et finalement, ce retour à la communion, alors il est permis tantôt parce que certains chrétiens se sentent persécutés, tantôt parce que ils redécouvrent un peu cette foi, notamment les maronites qui ont tissé des liens très tôt avec le siège de Rome, et bien finalement affirment qu'ils étaient liés à Rome depuis le commencement. Et puis il y a les Syro-Malabar en Inde qui reviennent vers le Saint-Siège, et puis les Grecs, certains Grecs dans l'église de Constantinople qui se tournent à nouveau vers le Saint-Père. Et en fait, c'est assez intéressant parce que là où les différences s'étaient constituées comme des divergences de foi, on assiste finalement, à partir du XVIe siècle, à un retour de cette différence de rite, mais avec une même unité de foi et un même retour, on va dire, dans le bercail de l'église. Et aujourd'hui, on a cette situation dans les églises orientales où en fait la majorité des chrétiens orientaux ne sont pas en communion avec le Saint-Père, donc ne sont pas catholiques, mais à l'intérieur de ces rites, une minorité est en communion avec le Saint-Père. Donc chez les Grecs, vous avez une majorité de Grecs orthodoxes, mais vous avez une minorité de ce qu'on a appelé les Grecs catholiques. Pareil, chez les Coptes, vous avez une majorité de Coptes orthodoxes et une minorité de Coptes catholiques. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ça oblige l'Église latine, l'Église de Rome, eh bien, à se pencher à nouveau vers ces églises qui ont des traditions différentes, mais qui veulent pourtant confesser la même foi et être unies aux successeurs de Pierre, garant de cette
unité.
C'est
ce qu'on appelle les uniates.
C'est ce qu'on appelle les uniates, oui. L'uniatisme qui commence au XVIe siècle et puis s'achève vers le XIXe à peu près. Alors cet uniatisme, il n'est pas sans poser quelques questions quand même. Parce
qu'il y a des usages différents aussi.
Il y a des usages différents. Ce sont des églises, pour le coup, qu'on appelle autocéphales, donc qui ont un fonctionnement à part, propre à chacune. Et puis, ça pose question pour ceux qui ne sont pas en pleine communion avec le Saint-Père. Bien, pour les Grecs orthodoxes, les Grecs catholiques sont, en quelque sorte, il faut mesurer les mots, mais des traîtres, parce que ils ont peut-être bradé un certain esprit au profit de Rome. Donc c'est pas toujours simple, mais ça pose ce rapport particulier, c'est que le Concile Vatican II, par exemple, contrairement au Concile de Trente, est un concile où siègent des patriarches orientaux catholiques. Et finalement, on a ce retour des églises orientales au Concile Vatican II. Alors, avant, il ne pouvait pas avoir lieu parce que c'était en schisme, mais c'est assez intéressant, finalement, où ce qui fera dire au pape Jean-Paul II, finalement, dans l'Église, il y a deux poumons, le poumon occidental et le poumon oriental de l'Église, qu'il ne faut pas oublier.
C'est assez intéressant ce que vous dites, parce que de mémoire, c'est vrai que les 2500 et plus évêques, 3000 évêques, enfin, c'était un événement couvert par plus de monde que les affaires du président Kennedy à l'époque. Et c'était vraiment ce qui braquait l'actualité, cette question du Concile Vatican II et cette ouverture. Enfin, je me souviens d'images, enfin de photographies de ces patriarches, habillés différemment, bien sûr. Oui. Donc, unité, c'est bien, c'est intéressant. Et alors, votre expérience là-dessus, par rapport à tout ça, comment ça modifie votre manière de percevoir la foi chrétienne? Ou plutôt, la foi, j'imagine que ça ne la change peut-être pas, encore que, mais la vie en Église. Parce que là, il y a une diversité.
Il y a cet élément, enfin, je pense, qui est assez... qui est assez important pour nous, c'est cette communauté française, d'origine française, qui a voulu fonder un monastère en Terre Sainte, à côté de Bethléem. Aujourd'hui, c'est juste à côté du mur, c'est le monastère de l'Emmanuel. Et en fait, quand elles sont arrivées en Terre Sainte, le patriarche grec catholique leur a demandé de changer de rite, donc de passer de leur rite latin, qui était le rite de leur baptême, au rite grec, parce que avec ce rôle, on va dire, œcuménique, et ce rôle aussi de s'inculturer dans le rite de la majorité de la population, même si la majorité de la population était orthodoxe. Et je trouvais ça intéressant parce que ça implique finalement, comme chaque missionnaire le fait, de s'inculturer dans un pays, dans un territoire, et sans finalement abandonner l'essentiel, qui est la foi chrétienne. Et finalement, c'est les uniates aujourd'hui, alors, sont un peu nous permettent de nous rappeler cela, de dire que cette unité de foi, elle peut s'exprimer de manière différente, et qu'on a à découvrir aussi les trésors. Ils nous font aimer aussi notre propre tradition. Je le disais dans une autre émission, de dire j'ai découvert en arrivant en Terre Sainte que j'étais un latin. Eh bien, finalement, en comprenant la différence de rite des Grecs, ça m'a aidé à comprendre ma propre tradition, d'en voir les limites, mais aussi et surtout les richesses. Et je crois que c'est assez assez intéressant, d'autant plus que aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens orientaux, originaires de ces églises orientales, qui sont en Europe et en Europe occidentale. À Dreux, nous avons des Ukrainiens catholiques, nous avons des Roumains catholiques, nous avons même récemment des Syriens catholiques qui sont arrivés. Et du coup, ça nous oblige un peu à changer notre regard.
L'histoire devient un peu actuelle.
Ben voilà, tout à fait.
Est-ce que il y a aussi les gestes très forts de et récents, des, enfin récents, oui, d'une certaine manière. Le pape Paul VI, c'est quand même pas si vieux. Des papes pour entrer en unité avec ce monde orthodoxe.
Oui. Alors c'est vrai que l'uniatisme, on va dire, s'est établi du 15e, du 16e jusqu'au 19e. Et puis, à partir du 20e, on a un peu cessé, en fait, de cette mode, entre guillemets, de l'uniatisme pour avoir des rapports directs avec ceux qui ne sont pas en pleine communion. Et c'est notamment le geste fort du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras qui en fait supprime les excommunications prononcées
réciproquement
par leurs prédécesseurs, qui supprime cela en disant non, on supprime cela et on essaye d'avancer vers une même foi. Aujourd'hui, je vous parlais des différents conciles, aujourd'hui on essaye justement de dire que nous croyons je vous parlais tout à l'heure du filioque. Aujourd'hui, les catholiques disent bien cette procession de l'Esprit Saint du Père et du Fils, elle peut se comprendre, non pas qu'on va changer les mots, mais du Père en premier lieu par le Fils, parce que le Fils vient du Père, quoi. Voilà, sans se battre. Donc il y a, je ne dis pas qu'il y a un consensus au niveau de la foi, mais en tout cas une volonté de vouloir l'exprimer et de vouloir dialoguer. Et c'est très important. Et ça a beaucoup assoupli, on va dire, les contacts des chrétiens sur le terrain. En Terre Sainte, quand les latins sont arrivés, aujourd'hui les orthodoxes prenaient ça comme une menace en disant ils vont nous piquer nos fidèles, etc. Et ils réagissaient de manière assez impressionnante quand une femme orthodoxe épousait un catholique, donc du coup le mariage était célébré chez les catholiques, les orthodoxes à côté sonnaient le glas, la sonnerie des morts.
Ah oui, c'est
à une époque.
Fait, là.
Aujourd'hui on n'en est plus du tout
on
là.
On sonne les cloches tous les deux.
Et voilà, on sonne les cloches tous les deux.
De
donc il y a un travail qui se fait et un travail qui vient surtout, pas seulement, mais surtout à l'instigation des papes qui font beaucoup pour essayer de rester en dialogue avec ces différentes traditions et ces différents représentants des églises orientales.
Un enrichissement mutuel aussi, quand on songe par exemple le pape François qui lance Laudato si sur l'environnement et comment déjà dans l'église orthodoxe on avait mis l'accent sur l'environnement, enfin je crois qu'il y a des choses aussi qui sont où on s'enrichit mutuellement.
Oui, tout à fait, il y a un enrichissement mutuel qui n'est pas toujours simple, hein. C'est vrai qu'il y a aussi voilà, l'histoire de l'église a marqué aussi les mentalités. Et c'est vrai qu'il y a des rapports qui ne sont, sont pas toujours faciles au niveau de la hiérarchie, mais qui localement sont quand même très, très assouplis.
Sur place, il faut bien vivre ensemble, bien sûr. Le mot de la fin, puisque le temps s'achève pour l'émission.
Le mot de la fin, je dirais, c'est de soutenir les chrétiens d'Orient, qui sont une richesse pour notre Église, et de prier pour eux, et d'essayer justement d'œuvrer pour leur sauvegarde, et notamment leur sauvegarde d'où ils viennent, c'est-à-dire au Moyen-Orient, dans les pays de l'Irak, de la Syrie, de la Palestine, du Liban, parce qu'ils ont vraiment ce rôle de personnes pont, là où ils sont, notamment avec les musulmans, avec les Israéliens. Et si ce mouvement de migration vers l'Occident continue, eh bien, on n'aura plus cette stabilité qu'ont apporté les chrétiens à travers l'histoire au Moyen-Orient.
Merci, Père Christophe Beignet, d'être venu nous parler de ces chrétiens d'Orient qui sont, vous nous avez dit, un élément de construction de la paix dans ce pays qui est un peu, il faut bien le dire, martyrisé par la guerre. Aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous, au revoir. Et à vous, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.